nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes jeudi 9 Farvardin, 1403 du calendrier iranien, 28 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Plus d'un million de personnes à Gaza sont confrontées à la famine, selon l'Organisation des Nations Unies. L'Iran fustige la guerre menée par l'armée terroriste du régime sioniste contre les hôpitaux de Gaza. Frappe aérienne d'Israël contre le Liban. Et le Niger demande aux États-Unis de soumettre un plan de désengagement des troupes. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fustigé les attaques du régime israélien contre les hôpitaux de la bande de Gaza, où sévit une guerre génocidaire. La guerre contre les hôpitaux et les centres de traitement de la bande de Gaza fait partie des crimes de guerre et du génocide commis par l'armée terroriste d'Israël, a écrit mercredi 27 mars le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un message posté sur X. Au cours de ces dernières 24 heures, les forces israéliennes ont incendié le service de chirurgie de l'hôpital Al-Shafa dans la ville de Gaza et ils ont bombardé l'hôpital Al-Amal dans la ville de Khan Younes au sud. Elles ont également attaqué l'hôpital Nasser et interpellé des sans-abri, des blessés et des membres du personnel médical. Nasser Kanani cite par ailleurs la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, Francesca Albanese, qui a récemment déclaré « Vu l'énorme quantité de preuves des crimes commis par Israël dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, il faudrait 5 décennies pour les instruire devant la Cour pénale internationale. » La République islamique d'Iran a participé à l'exposition Atom Expo 2024 et le pays a présenté ses dernières réalisations nucléaires dans le domaine de la santé, de la médecine, de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, ainsi que dans le domaine de l'industrie, de l'eau et des sols, ainsi que l'environnement au Forum international d'Atom Expo 2024. Un événement international sur l'énergie nucléaire, Atom Expo 2024, a commencé lundi dans la ville côtière de Sotchi, en Russie. La 13e édition du Forum international d'Atom Expo 2024, soutenu par la Société nationale russe de l'énergie atomique, Rosatom, s'est déroulée sous le thème « Énergie propre, autonomisation d'un avenir propre ». Des responsables d'agences gouvernementales, des principaux fournisseurs et entreprises de l'industrie nucléaire mondiale, des organisations publiques et des experts internationaux ont assisté à cet événement de 2 jours. Les participants ont discuté sur le rôle de l'ingénierie électronucléaire dans les stratégies nationales de lutte contre le changement climatique. L'aviation du régime sioniste a mené plusieurs frappes aériennes contre Tahrir Halfa et Naqoura au Liban. Plusieurs civils et médecins ont trouvé la mort. Le bombardement d'un café près d'un poste de contrôle de la Finul à Naqoura, dans le sud du Liban, a fait 4 morts et 6 blessés, a rapporté mercredi 27 mars un correspondant de la chaîne libanaise Al-Mayadine. Les victimes ont été transportées à l'hôpital libano-italien de la ville de Tyr, où des dizaines de personnes se sont présentées pour donner leur sang. Un autre chasseur israélien a bombardé un véhicule appartenant à l'organisation médicale islamique, un centre médical bénévole à Tahrir Halfa. Deux ambulanciers ont été tués. Sept membres d'un centre d'urgence ont été également tués mercredi dans une frappe aérienne du régime israélien qui a visé le centre de l'association médicale islamique à Habariyé. Dans un communiqué, le Hezbollah a vivement condamné ce crime odieux, promettant des mesures de représailles. Walid Al-Asta, un jeune de 19 ans, originaire de Naplouse, a été tué en martyr après avoir été grièvement blessé lors d'une attaque de drones israéliens ayant visé le camp de réfugiés de Jenin dans le nord de la Cisjordanie. L'hôpital Ibn Sina de Jenin a confirmé dans un communiqué sa mort mercredi soir suite à une frappe de drone menée par Israël plus tôt dans la matinée. Jeudi matin, des combattants de la résistance du camp de Jenin ont identifié les forces spéciales de l'armée israélienne qui s'étaient infiltrées dans le camp. Ils les ont ciblés et se sont engagés dans des affrontements féroces, poussant l'armée d'occupation à amener des renforts et à étendre leur aide après que leurs forces ont été repérées. Le Niger annonce que les États-Unis soumettront prochainement une proposition afin de désengager leurs soldats du pays après que le gouvernement a annoncé son retrait d'un accord de coopération de 2012 avec Washington. Le ministre nigérien de l'Intérieur a rencontré mercredi 27 mars l'ambassadrice américaine pour discuter de la question, a indiqué le ministère à Niamey. À Washington, le porte-parole du département d'État a refusé de commenter les affirmations du ministère nigérien de l'Intérieur et a déclaré que le statut des troupes américaines restait globalement le même pour l'instant. Et enfin, le président russe Vladimir Poutine a averti les pays occidentaux que les avions de combat américains F-16 fournis à l'Ukraine constitueraient des cibles légitimes s'ils étaient utilisés contre les troupes russes depuis les aéroports situés dans des pays tiers. Lors d'une réunion mercredi 27 mars avec des pilotes militaires dans la région de Tver, le président russe Vladimir Poutine a clairement indiqué que toute tentative d'utiliser les avions F-16 contre les troupes russes depuis les aéroports des pays voisins ne resterait pas sans réponse, peu importe où ils se trouvent. Le Bureau des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies confirme qu'il n'y a pas d'alternative à l'acheminement de l'aide par voie terrestre pour sauver des vies, en particulier dans le nord de Gaza. Le Bureau des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies a averti le jeudi 27 mars dans un communiqué que le temps presse et les obstacles à l'accès à l'aide persiste dans la bande de Gaza. Le communiqué souligne que plus de 1 100 000 personnes à Gaza sont confrontés à l'insécurité alimentaire grave, affirmant qu'il n'y a pas d'alternative à l'acheminement de l'aide par voie terrestre pour sauver des vies, en particulier dans le nord de Gaza. Plus tôt mercredi, Ismail Al-Sawabte, directeur général du bureau des médias du gouvernement de Gaza, a averti que le cauchemar de la famine dans le nord de la bande de Gaza se poursuivrait si l'aide n'était pas fournie de manière durable. Il a expliqué que l'aide devait être acheminée par voie terrestre, aérienne et maritime. Il a également exprimé sa profonde tristesse pour la mort des Gazaouis qui ont perdu la vie à la suite d'un largage aérien erroné des aides humanitaires, appelant les pays du monde à l'acheminer par les voies appropriées et correctes. Il a condamné le blocus de la bande de Gaza, appelant la communauté internationale à contourner les restrictions imposées par les occupants sionistes afin d'imposer sa volonté sur la réouverture du point de passage de Rafah. Le régime d'occupation israélien poursuit sa guerre contre Gaza qui dure depuis 174 jours, affectant tous les aspects de la vie de la population de cette enclave assiégée. En même temps, les sionistes y appliquent délibérément la famine en prolongeant la fermeture des points de passage terrestre de la zone côtière et l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire. Par ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères a fustigé les attaques du régime israélien contre les hôpitaux de la bande de Gaza, où sévit une guerre génocidaire. La guerre contre les hôpitaux et les centres de traitement de guerre et du génocide commis par l'armée sioniste, a écrit mercredi 27 mars le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un message posté sur X. Au cours de ces dernières 24 heures, les forces israéliennes ont incendié le service de chirurgie de l'hôpital Al-Shafa dans la ville de Gaza, assiégé, et bombardé l'hôpital Al-Amal dans la ville de Khan Younes au sud. Elles ont également attaqué l'hôpital Nasser et interpellé des sans-abri, des blessés et des membres du personnel médical. Nasser Kanani cite par ailleurs la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, Francesca Albanese, qui a récemment déclaré « Vu l'énorme quantité de preuves des crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, il faudrait 5 décennies pour les instruire devant la Cour pénale internationale.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, après 6 mois d'échec et d'incapacité de trouver une solution et une décision qui aboutirait à un cessez-le-feu immédiat et permanent, et bien sûr, et justement maintenant, le Conseil de sécurité a décidé d'adopter une résolution quant à quoi un cessez-le-feu permanent serait bientôt en cours, mais évidemment, on ne peut pas faire confiance à Israël ni aux États-Unis qui mènent une politique de deux poids deux mesures depuis le début du conflit et ne cessent de nourrir Israël pour tuer des innocents palestiniens. Justement, 32 000 morts depuis le début donc des hostilités dans ce pays. Alors nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié de mesure positive mais insuffisante la ratification par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution sur le cessez-le-feu à Gaza. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré ce mardi 26 mars que cette démarche intervenait après 6 mois d'échec et d'incapacité à prendre une décision dissuasive contre les crimes de guerre et le génocide commis par l'entité sioniste contre les citoyens palestiniens et qu'il s'agissait d'une étape positive mais insuffisante. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté que la mesure la plus importante à prendre est une action efficace pour mettre en œuvre cette décision, une cessation complète et durable de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, la fin complète du siège arbitraire de Gaza, la réouverture des points de passage pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire internationale sans aucune discrimination, la fourniture des aides et fonds internationaux pour le démarrage immédiat de la reconstruction des destructions survenues dans la bande de Gaza, que ce soit dans les maisons et les infrastructures vitales, en particulier les hôpitaux. Kanani a également considéré la réaction du régime infanticide israélien à cette résolution comme une expression de sa colère face à sa défaite irréparable sur le champ de bataille et dans les arènes politiques internationales. On espère que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra l'entité israélienne pour responsable des crimes qu'elle a commis au cours des 6 derniers mois contre le peuple palestinien sans défense et qui le punira aussi en cas de commission nouvelle de crimes en violation de la résolution du Conseil de sécurité, a-t-il conclu. Le Conseil a adopté lundi une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat pour le mois béni du Ramadan, espérant que cela aboutira à un cessez-le-feu durable et permanent.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Jacob Cohen, expert politique et franco-marocain. Bonjour, M. Cohen.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à mon collègue Ahmed Rami, dont j'ai le plaisir de partager cette émission et que c'est la première fois. Enfin, c'est un grand plaisir d'être en contact avec lui et avec vous.
Monsieur Cohen, il s'agit d'un débat, donc vous êtes amis et j'espère pas que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire, bien sûr. Je dis ça pour rire, bien évidemment. Un grand bonjour à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis la Suède. Bonjour, monsieur Rami. Un plaisir de vous accueillir dans l'émission Le Débat. Ma première question va s'adresser à Jacob Cohen. Alors, encore merci. Alors, nous parlons bien sûr de cette politique de deux poids, deux mesures que mènent Israël et les États-Unis depuis le début du conflit. Le Conseil de sécurité a décidé, donc, avec l'absence des États-Unis, d'adopter donc un cessez-le-feu immédiat, permanent. Nous l'espérons. L'Iran donc a qualifié cette résolution de positive, mais non pas suffisante. Que pensez-vous, je vous prie?
Bon, comme je l'ai écrit quelque part il y a 2 jours, enfin une résolution, mais pourquoi faire? C'est-à-dire que finalement, elle a été votée, mais elle n'a aucune valeur, effective, d'efficacité. Rien n'oblige les parties concernées à s'y conformer. Ça reste une résolution comme celles qui ont été adoptées, par exemple, je cite celle de la résolution 242 de 1969 qui exigeait l'évacuation des territoires conquis militairement en 67 et qui n'a jamais connu le moindre commencement d'application. Donc malheureusement, cette résolution apportera une satisfaction morale, un espoir, une espérance, mais dans la réalité, je crois que d'ailleurs, le régime sioniste n'a pas cessé ses actions sur Gaza. Donc, c'est une résolution qui n'a pas, malheureusement, qui ne sera pas appliquée, ou qui ne sera appliquée que lorsque l'Occident ou les États-Unis exigeront que ça s'applique.
Oui, merci pour cette introduction. J'aimerais connaître celle d'Ahmad Rami. Alors, Monsieur Ahmad Rami, Jacob Cohen n'est pas très optimiste à l'égard de ces résolutions et pense que ce ne sera pas une décision concrète au profit donc de ceux qui sont directement en conflit dans cette guerre. Que pensez-vous, je vous prie?
Oui, je partage les opinions de Monsieur Jacob Cohen. Salut ici et que je respecte. J'ai des difficultés à trouver les mots suffisants pour décrire ce qui se passe. C'est tellement culotté, tellement sauvage, tellement criminel, tellement affreux que ce que aujourd'hui l'occupant israélien fait en Palestine est indescriptible. On ne peut pas le décrire parce que c'est tellement culotté, c'est tellement sauvage, c'est tellement criminel que je crois que c'est horrible ce qui se passe. Et maintenant, ce qui est encore affreux et horrible, c'est que cette occupation sioniste militaire en Palestine s'exerce aussi comme une occupation politique dans le monde entier. Tous les pays sont occupés. Du Maroc, d'où je viens, en Suède, où je suis, aux États-Unis, en France, en Russie. Tous les pays sont, où il y a des lobbies sionistes sont occupés politiquement par l'entité sioniste. Et je crois que pour libérer la Palestine, il faut d'abord libérer les États-Unis. Les États-Unis même sont occupés politiquement par l'entité sioniste. C'est le lobby sioniste qui gouverne
D'accord.
les États-Unis.
Absolument. Jacob Cohen, votre réaction, je vous prie.
Oui, c'est la force d'Israël vient de l'emprise que cet État a su développer et exercer pendant les 70 dernières années, jouant sur la Shoah, jouant sur les agents d'influence, les dizaines de milliers de Sayanim qui sont dans ces pays-là et qui ont infiltré tous les domaines sensibles de ces pays, c'est-à-dire les domaines médiatiques, économiques, financiers, politiques, stratégiques, universitaires, etc. etc.
Médical, peut-être aussi.
Pardon ?
Médical, peut-être, l'agriculture aussi.
Tout à fait, médical. Mais je peux vous citer un exemple concret, d'ailleurs. Vous me rappelez médical. Lorsque Christophe Oberlin, qui va deux ou trois fois par an à Gaza et qui est professeur à l'université d'Hydro à Paris, lorsqu'il avait donné un sujet d'examen qui se rapportait aux exactions israéliennes sur les Gazaouis, l'association des médecins juifs a porté plainte contre lui et l'a traîné en justice. Donc en fait, c'est là leur force, c'est-à-dire ils sont dans tous les domaines et exercent cette influence. Et donc, et malheureusement, c'est ce qui empêche des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis d'adopter, même contre leurs propres intérêts, quel est l'intérêt des États-Unis de s'aliéner tous les pays du Moyen-Orient, d'autres pays africains, etc., pour faire plaisir à un État qui ne lui rapporte pas grand-chose finalement. Et d'ailleurs, c'est ça le malaise. Le terrible dilemme des Américains aujourd'hui. Ils voudraient bien se sortir de ce piège, mais ils ne savent pas comment, parce que leur classe politique est à 90% dominée par le lobby sioniste.
Absolument. Ahmad Rami, on ne peut être que d'accord avec Jacob Cohen dans ce domaine. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans ce domaine? Vous dites qu'il faut libérer les pays qui sont en prise avec le lobby sioniste, mais est-ce que ça va se poursuivre ou il y a une espérance tout de même que cela cesse?
Je partage totalement les idées de M. Jacob Cohen et j'ajoute que, comme il a dit, les États-Unis n'ont aucun intérêt à combattre l'Iran. L'Iran ne constitue pas une menace contre les États-Unis, ni militairement, ni politiquement. Donc, l'entité sioniste n'a jamais gagné elle-même, c'est-à-dire le lobby sioniste n'a jamais gagné lui-même une guerre, mais ils utilisent toujours les autres contre leurs ennemis. Ils veulent utiliser maintenant les États-Unis contre l'Iran. Donc c'est toujours la même tactique qu'ils utilisent et il y a maintenant, bien sûr, puisque cette occupation politique qui s'exerce dans tous les pays où il y a les sionistes, donc il y a aussi une résistance qui se développe dans tous les pays contre l'occupation sioniste mondiale. Et je crois que cette résistance va se développer et c'est-à-dire va se développer et va bien sûr combattre la domination sioniste. Tout ce qu'on veut, ce n'est pas réprimer une population. Tout ce qu'on veut, c'est avoir les mêmes droits que les sionistes ont dans le monde entier. On veut que les Palestiniens aient les mêmes droits que les sionistes en Palestine. Alors que tous les occupants en Palestine, tous les dirigeants ne sont pas de la Palestine, ils viennent d'autres pays, de l'Europe, de l'Amérique. C'est-à-dire ce sont des occupants qui viennent d'étrangers, qui occupent la Palestine, qui veulent chasser les Palestiniens, les exterminer. Et donc, c'est les mêmes droits pour tous les gens, la démocratie, l'égalité entre tous les peuples, entre tous les groupes, y compris les sionistes. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est en Palestine, par exemple, ils ne cherchent pas à avoir les mêmes droits que les Palestiniens, ils cherchent à dominer la Palestine, à exterminer les Palestiniens. Voilà, c'est la vérité. Voilà.
Oui, absolument. Jacob Cohen, quelle est votre idée concernant la résistance, surtout chez les jeunes partout dans le monde, qui donc sont absolument contre les politiques sionistes qui se déroulent dans ce pays? Cette résistance, est-ce qu'on peut espérer dans cette résistance?
Alors, à mon avis, il faut l'organiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de ces éclosions de protestations. C'est vrai qu'elles sont intéressantes, mais on devrait pouvoir, enfin à mon avis, hein, qu'elles ne retombent pas lorsque, à un moment donné, la tension va retomber, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut l'organiser, par exemple dans les universités, créer des cellules, des contacts, des réunions permanentes, hebdomadaires, ou par exemple, des échanges d'informations, des conférences, des gens sur qui on peut compter, par exemple, lorsqu'il faudra avancer un dossier, une conférence, etc. C'est ça, d'ailleurs, j'ai souvent dit que les résistants arabes ou palestiniens devraient s'appuyer ou regarder comment les lobbies judéo-sionistes ont quadrillé le monde occidental, et procéder de la même manière, c'est-à-dire vraiment organiser des formations, par des conférences, par des contacts, et obtenir la fidélité de cette jeunesse, c'est-à-dire l'implication de cette jeunesse. Si on laisse faire aujourd'hui comme ça ces manifestations spontanées, si on ne les organisait pas à l'avenir, malheureusement, je crains qu'on perde ce capital extraordinaire.
Absolument. Vu qu'il y a eu des centaines, peut-être des milliers de manifestations à travers le monde contre les actes barbares du régime israélien, mais ça n'a aucunement exercé de pression, de grande pression, pour cesser donc ces hostilités, vu qu'il y a 32 000 morts, même après des centaines de manifestations à travers le monde. Donc, Jacob Cohen, donc vous parlez donc d'une organisation plus forte, mais par qui et comment ?
Il y a des associations, il y a des influenceurs, il y a des gens qui ont une influence, des gens qui, des écrivains, des universitaires, etc. Il faut créer des réseaux, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu à Harvard, bon, il y a des étudiants qui ont protesté. Et le lobby judéo-sioniste a dit carrément, publiquement, nous avons vos noms, et lorsque vous terminerez vos diplômes, vous ne trouverez pas de travail à Wall Street. Bon, voilà. Mais s'il y avait une espèce de contrepoids, ça veut dire, je n'ai pas l'impression qu'il y a un contrepoids, c'est-à-dire tous les universitaires qui partagent la même opinion, la même envie de combattre l'influence du lobby sioniste, il faudrait que tous ces universitaires fassent front commun avec leurs étudiants. Et donc, quand il y a une chose comme ça qui se passe, eh bien, qu'il y ait 500, 1000, 2000 universitaires, etc., qui publient un communiqué, qui s'engagent dans le sens d'appuyer le doyen de Harvard parce qu'il était menacé, etc. C'est cette forme-là dont j'avais l'idée.
Oui. Ahmad Rami, quelle est votre position à cet égard, cette manipulation du lobby sioniste à travers le monde?
Je crois que les sionistes, c'est comme toutes les mafias criminelles, comme toutes les organisations, comme toutes les sectes, ils sont très organisés, ils sont très actifs. Chaque sioniste est organisé, presque, on dirait qu'il est presque né, programmé par la nature à être organisé, à être actif. Alors que les non-sionistes, leurs victimes ne sont pas organisées. C'est ça. Les organisés, ce sont des chiffres. 1 plus 1, ça fait 2. Alors que les non-organisés, ce sont des zéros, politiquement. 0 plus 0, ça fait 0. En réalité, ils ne sont pas une minorité, ils sont majorité, puisqu'ils comptent, ils exercent leurs influences. Et je crois que, en fait, c'est pas moi. Moi, quand j'étais au Maroc, par exemple, quand j'étais déjà enfant et adolescent, j'étais moi aussi un peu, d'une certaine façon, programmé par la nature. J'étais très organisé et je voulais faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi de devenir officier pour faire un coup d'État comme Nasser, parce que j'étais nassérien. Et donc, c'était pour la Palestine que j'ai fait ça, même au Maroc. Et quand je suis arrivé en Suède, j'ai créé une radio qui s'appelle Radio Islam. C'est aussi pour lutter pour la question palestinienne, parce que je soutiens le droit, je soutiens la justice en Palestine. C'est tout ce que si les Juifs étaient des victimes, ils auraient soutenu s'ils avaient le droit. Mais alors que le Juif français, le sioniste français ou russe ou américain, qu'est-ce qu'il a à faire en Palestine? Ils ne sont pas des religieux, parce que d'après un sondage d'opinion en Israël, 95% des Israéliens ne croient pas en Dieu, mais ils croient que le Dieu leur a promis la Palestine. Hein? Donc, c'est, en fait, ce qu'il faut, c'est que les victimes de la domination sioniste doivent se réveiller, se soulever, et même s'ils ne sont pas la majorité, mais c'est pour ça qu'il y a des coups d'État, parce qu'une seule personne aussi peut influencer le cours de l'histoire, et je crois que c'est ce qui va se passer dans tous les pays arabes
qui
sont occupés par l'antisionisme. Voilà.
Oui, Jacob Cohen, est-ce qu'on peut compter sur la population d'Israël, donc d'exercer de pression sur le gouvernement de cesser ses hostilités?
Non, il ne faut pas compter là-dessus, pas du tout. De ce que je sais, de ce que j'apprends, des discussions que j'ai avec des gens là-bas ou des reportages que je suis, il y a une atmosphère de guerre. Vous savez, l'État profond sioniste, ses premières victimes sont les populations juives israéliennes. C'est-à-dire qu'on les a façonnées de telle sorte qu'elles sont convaincues que la paix est impossible, qu'il faut toujours faire la guerre, une guerre éternelle, et qu'on a créé les conditions pour que cette guerre soit éternelle. Et donc, en ce moment, la majorité des juifs israéliens sont derrière le gouvernement, sont derrière l'armée, et même certains disent qu'on ne tue pas suffisamment de Palestiniens. Il y a une atmosphère hystérique en ce moment en Israël, et il ne faut pas trop compter sur cette population-là pour critiquer le gouvernement sur ses actions à Gaza. Malheureusement, voilà, ça c'est une réalité, il ne faut pas trop compter là-dessus.
C'est dommage tout de même, Jacob Cohen. Oui,
c'est dommage, mais c'est ça, l'état profond sioniste, il a des objectifs, il s'en fiche de l'intérêt de sa population juive, il veut l'amener, même s'il l'amène à l'abattoir, mais parce qu'il a des intérêts supérieurs de conquête, de domination, d'influence, et sa population juive, il l'utilise à ses propres fins. Moi, j'ai de la famille en Israël, et je sais ce qu'ils pensent, et malheureusement, ils sont entraînés dans un engrenage dont ils n'arrivent même pas à comprendre les ficelles et dont ils n'arrivent pas à se libérer.
Ahmad Rami, votre réaction, car Jacob Cohen donc, a dit des propos très intéressants.
Vous savez qu'en Israël, des centaines de milliers de Russes qui ne sont pas juifs, mais qui sont israéliens, qui se disent juifs, ne sont pas des juifs. Donc ce n'est pas une question seulement de... mais il y avait des problèmes économiques en Russie, donc ils ont quitté la Russie pour avoir une meilleure... Mais il faut... la même chose en France. Pourquoi le lobby sioniste, les occupants sionistes occupent la France? La France est occupée politiquement. Tous les décideurs, tout ce qui décide en France, ce sont des sionistes. Aux États-Unis, la même chose. Alors comment libérer la France? Comment libérer les États-Unis? C'est ça le problème. Et c'est une question qui concerne la démocratie, l'égalité entre les peuples, entre les individus. Il faut savoir que en réalité, je crois que dans la nature, il y a entre guillemets, si on veut faire une métaphore, c'est-à-dire que dans l'organisme humain, il y a des microbes et des
Absolument.
Anticorps. Les
oui.
sionistes jouent le rôle métaphorique de microbes et les résistants jouent le rôle d'anticorps. Je crois que il y a toujours dans tous les corps, dans tous les organismes, que ce soit physique,
Absolument.
Social ou humain, il y a toujours, disons, des gens qui jouent le rôle, des rôles différents. Maintenant, c'est le rôle des microbes, ils sont forts dans tous les pays, que ce soit en France, au Maroc, dans tous les pays.
Bon. Tout à fait. Tout à fait.
Souhaitant, pourquoi, par exemple, celui qu'au gouvernement, le vrai gouvernement, c'est le sioniste André Azoulay. Sa fille est la présidente de l'UNESCO, hein, internationale. Pourquoi cette secte criminelle organisée s'est-elle emparée du pouvoir dans tout le monde
tout
entier,
à fait.
Internationalement et localement?
C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr. Ahmad Rami, merci beaucoup. Vous êtes directeur de Radio Islam en Suède. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci également à Jacob Cohen, également expert des questions internationales, qui a participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 31 à 37 du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets qui nous ont appris que selon le récit des actions que les anges ont préparées, l'homme comparaîtra devant le tribunal divin. Sur cette base, Dieu sépare les criminels infidèles des bons serviteurs et les punit pour leurs actes. En fait, ils ne croient pas en Dieu par obstination et en pratique, ils créent un obstacle à toute bonne action. Le Coran parle de ceux dont les gens de leur compagnie les conduisent en enfer, comme les mauvais amis, les chefs de la mécréance et Satan qui est à leur tête. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 31 et 32 de la Sainte Sourate Qaf. Puis nous vous en donnerons la traduction. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines. Le sort des gens qui ne croient pas à cause de leur entêtement et de leur obstination a été énoncé dans le Coran. Par rapport à eux, le Coran souligne la bonne destinée des croyants et dit « Au jour de la résurrection, le paradis sera préparé pour les pieux et les purs ». Le paradis leur sera facilement accessible afin qu'ils puissent bénéficier du don infini et des bénédictions de Dieu. Cette grande récompense est le résultat de la mise en œuvre des ordres divins dans ce bas monde. Cela les a amenés à éviter de désobéir à Dieu. Quand ils commettaient une erreur par ignorance et par négligence, il revenait immédiatement et se repentait. Ces versets du Noble Coran nous apprennent qu'un croyant n'est pas à l'abri du péché, tout comme un incroyant. Mais contrairement à un incroyant, un vrai croyant n'insiste pas pour commettre un péché. Et s'il trébuche, il regrette et il se repent, et essaie de compenser ses erreurs. Si nous croyons aux promesses de Dieu, soyons sûrs que la pureté, la piété et le retour à Dieu nous amèneront au paradis. Voici maintenant les versets 33 à 35 de la Sainte Sourate Qaf.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
Tout homme qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Le signe de la vraie foi en Dieu est que dans l'intimité et dans un lieu où personne d'autre que Dieu n'est présent, le croyant craint Dieu et ne commet pas de péché. Et s'il est pris dans un péché, il se repent immédiatement et il revient. Un tel esprit libère le croyant de l'enfer, l'amène au paradis et l'y fait demeurer éternellement. Ceux qui ont renoncé à ce qu'ils voulaient dans le monde pour le plaisir de Dieu, Dieu leur donne ses récompenses dans le paradis et dit « Maintenant, tout ce que vous voulez est disponible pour vous et en outre, les bénédictions que vous ne savez pas demander, Dieu vous les accordera par sa grâce et sa miséricorde. » Ces versets du noble Coran nous apprennent que le cœur des croyants est sincère, et cela les conduit à leur salut. Mais les cœurs des mécréants et des hypocrites justifient faussement leurs crimes et leurs péchés. C'est pourquoi ils ne seront pas sauvés. S'abstenir du péché aux yeux des autres et en public n'est pas un signe de foi, car cela peut être dû à la peur du jugement des autres personnes. Mais si nous craignons Dieu en secret, cela montre la vraie foi. Lorsque les croyants entrent dans le paradis, ils sont accueillis par respect et des cérémonies spéciales. Au paradis, il n'y a aucune restriction ni souffrance. Et l'une des meilleures promesses faites à eux, c'est leur immortalité dans le paradis céleste. L'homme est une créature qui souhaite atteindre l'infini, et c'est pourquoi Dieu lui donne plus qu'il pourrait imaginer dans le paradis. Écoutons enfin les versets 36 et 37 de la sourate 50 du noble Coran.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux. Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Le noble Coran avertit tous les oppresseurs de ne pas penser que leur pouvoir empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu et qu'ils peuvent sortir du cercle du pouvoir infini de Dieu. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreuses personnes puissantes qui ont régné sur de vastes régions de la terre, mais elles étaient toutes impuissantes face à la volonté et à la puissance infinie de Dieu et ont péri. Il est naturel que ceux qui étudient l'histoire des peuples d'antan analysent leurs actions et leurs comportements et découvrent les raisons de leur chute et de leur disparition. Nous apprenons de ces versets que connaître les raisons de la disparition des grandes civilisations du passé devrait être un guide pour les générations présentes et futur. L'une des traditions divines consiste en l'anéantissement des peuples cruels. Le pouvoir peut préparer le terrain à l'oppression et à la corruption, à moins que la foi empêche ce penchant pour le mal. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.